Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle conférence de presse. Nous allons parler de quatre spectacles aujourd'hui, de biographie remix de Marina Abramovic et Michel Loeb, du spectacle de Wim van de Kebus, pur à la carrière Boulbon, de Last Landscape avec Joseph Nadj, et puis de Jean Lamberville, enfin plutôt de son spectacle Mu, avec Jean Lamberville et la coopérative 326. Voilà donc pour le programme. Alors, comme tous les matins, bien évidemment, je vais amorcer un petit peu la conversation et la discussion, le débat avec les artistes invités. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous manifester, à lever la main, et on essaye dans la mesure du possible de faire en sorte que vous puissiez vous exprimer et exprimer votre curiosité vis-à-vis des spectacles dont nous parlons. Donc nous allons commencer tout de suite avec Marina Abramovic qui est là en blanc au milieu de cette assemblée. À sa gauche, Michel Loeb avec qui donc elle signe. À votre gauche ?
Non, mais noir.
Ah oui,
en noir.
En noir, avec elle signe biographie remix. Et entre nous, Natacha Madol qui va assurer la traduction, puisque vous parlez français, mais avec peut-être des nécessités de vous exprimer dans l'anglais. Donc bonjour à vous. Biographie remix, c'est donc à la salle Benoît XII du 11 au 14. Je vais juste réagir sur le mot. Quand on dit biographie, on a envie de faire carrément, quasiment un curriculum vitae, donc vie et travail à Amsterdam, née à Belgrade, dès les années 70, s'impose comme une artiste majeure de la performance. Vous dites vous-même d'ailleurs que vous êtes une grand-mère de l'art de la performance. Je trouve ça un peu osé. Est-ce que ces éléments biographiques se retrouvent dans la proposition de spectacle que vous faites avec Michel Loeb, Marina Abramovic?
Bien, l'histoire de biographie, c'est une longue histoire. But now we have to speak in English because it's my French is so complicated. I only like to have a little stories in French. All right, so it's a very long story. I just wanted to tell you a little bit how all the things started. Started actually from the Great Wall walk on the Chinese Wall in the 88.
Bon, alors je vais m'arrêter ici pour mon français. En effet, je préfère parler en anglais mais raconter des petites histoires de temps en temps en français. J'aimerais commencer par dire que tout a commencé en fait avec le Great Wall Walk en Chine en 1988.
At the time I worked for 12 years with an artist called Ulai, and we finished our relationship on the Chinese Wall. I walked from the Gobi Desert. He walked from the Gobi Desert. I walked from the Yellow Sea in China, and each of us walked 2,500 kilometers to meet in the middle and say goodbye and finish our life and work together.
Donc, à cette époque, je vivais, je travaillais en fait avec Oulé. Ça faisait 12 années que nous avions travaillé ensemble. Et tout s'est fini au moment justement du Great Wall Walk en Chine. Lui était parti du désert de Gobi, moi de la mer Jaune. Nous avons parcouru chacun 2500 kilomètres pour nous retrouver donc à mi-chemin et nous séparer.
This was very difficult in the moment in my life when I felt, as I said in biography, fat, ugly and unwanted.
C'était un moment très difficile de ma vie, en effet, parce que, comme je le dis dans la biographie, je me sentais non désirée et très laide.
Yeah. I mean, but apart of this, it was also the end of the work. So in a way, I was on the zero in my career.
Et d'une certaine manière aussi, c'était la fin de cette grande marche. Donc je me sentais à un état zéro.
The only way I could get rid of my pain, it was to stage my life in a theater, who I hated very much till that time.
Le seul moyen de mettre fin à cette douleur, à ce chagrin, c'était de mettre en scène en fait tout ceci au théâtre. Et pourtant, Dieu sait que je déteste le théâtre.
And of course, I love Mariette Callas, I love the tragedy, I love the big drama. So the theater was not enough. I want opera.
Bien sûr, j'aime beaucoup Maria Callas, j'adore l'opéra, mais le théâtre n'était pas suffisant, j'avais besoin de plus, du drame.
In that way, then I ask in that time the Charles Atlas, who is the filmmaker and also the artist himself, to come and help me to stage my own life called the biography at that time.
Et à cette époque, donc, j'ai demandé à Charles Atlas, qui est lui-même donc un artiste, de filmer, de monter ma vie.
And since that time, actually, how to start biography, I'm playing my life every 5-6 years, and I'm adding the parts I like or I'm taking parts I don't like as life goes. And I would like to play my biography till I get Alzheimer, wheelchair, whatever, you know, however physical destruction of my body go on, you know, till I die.
Donc depuis 5-6 ans, je continue à jouer cette biographie et je rajoute, en fonction des événements qui arrivent dans ma vie, je rajoute ceci dans cette biographie. Et j'aimerais la jouer jusqu'au bout, quitte à me retrouver en fauteuil roulant, et quel que soit donc l'état quel que soit mon état physique, en fait.
Mais cette biographie, Marina Abramovic, est-ce que vous la concevez comme un portrait ou est-ce que vous la concevez comme une anthologie de vos performances?
But this is changing as the every time is a different approach to the biography. You know, in the beginning was really the idea that my first idea was what is completely different now, especially since Michel Laub is working on this subject. It was the idea was that I would like to do things which I, of course, the performance elements were very, you know, tough and very demanding, but also to do things I'm ashamed of. Things I don't like, things I actually I am afraid doing it in the front of the audience because I don't know to do them well.
Donc en effet, tout...
Like acting.
En effet, tout change, cette biographie se modifie au fur et à mesure. En effet, les idées premières que j'avais au départ ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Au départ, je voulais faire certaines choses. C'est vrai que certains éléments de cette performance sont assez durs et je voulais utiliser certains éléments de honte, faire des choses que je déteste et dont j'ai peur.
But then comes the Michel, who I invite, who is the first of all a friend for a long, long time, who know very well not just my work but especially my life. And I ask him if it would be interesting for him to make actually this new biography remix, but with the new conditions.
Et c'est là qu'est entré donc en scène, on va dire, Michel, qui connaît très bien à la fois mon œuvre et ma vie. Je lui ai demandé s'il était intéressé de créer cette nouvelle biographie remix.
The condition was for me the most interesting to actually give him all my material about my life and my work, and he can remix them whatever he wants in every way he wants, but for the condition that I don't have any veto to say anything that I don't want to be in, that actually I should be just the actor. In his play about my own life.
Donc en effet, parmi ces nouvelles conditions, c'était de lui donner tout ce matériau à la fois concernant ma vie et mon travail et le laisser en fait contrôler tout de A à Z. C'est-à-dire que je n'avais pas de droit de veto. Tout ce que je voulais être, c'était une actrice.
And this was the most incredible experience because it's for an artist is the most difficult to give up the control. And I really give up the control. And he succeeds to make a completely new life looking to myself.
C'est vrai que c'est une expérience assez incroyable parce que le plus difficile, c'est d'abandonner tout contrôle à une autre personne. Et je veux dire qu'il a vraiment réussi dans cette tâche. Il a réussi à créer une nouvelle vie.
Alors, j'ai envie de vous poser deux questions, Marina Abramovic. C'est d'une part, est-ce que vous aimez le théâtre aujourd'hui? Et d'autre part, parce que vous le détestiez. Et d'autre part, est-ce que être actrice... Et vous considérez ce fait d'être actrice comme une performance?
You know, Michel done everything possible to take every the wish from me away from me. So I'm not acting in this play, not in any minute.
En fait, Michel a rendu tout ceci possible, surtout d'un point de vue artistique, et je ne joue pas, en fait, je suis dans cette pièce.
And in the 70s, why I hate the theater, because if you're a performance artist, this was something so artificial, it was something so, you know, not performance, because you have this audience in the dark, and you're on the stage, and you're playing these emotions were not yours, and playing somebody else who is not you, and so on. And, you know, the performance is everything about real, and about a direct energy dialogue with the public, where it's different in the case of the theater.
En effet, je n'aime pas le théâtre parce que en soi, c'est un artifice.
Dans les années 60.
Dans les années 60. Dans les années 60, merci. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la performance. En effet, le public se retrouve dans cet endroit obscur, noir. On joue des sentiments qui ne sont pas les nôtres. On joue une autre personne. Ce que j'aime avec la performance, c'est que c'est quelque chose de vrai. Et qu'il y a ce dialogue tout en énergie, en fait, avec le public.
But what is happening now, things are changing because the theater taking performance in. So it's more than many times the performance, there are so many elements of performance and that kind of reality in the theater. So I start liking theater.
Aujourd'hui, les choses changent. En effet, le théâtre commence à prendre de plus en plus d'éléments qui appartiennent à la performance. Donc c'est pour ça que je commence à apprécier le théâtre.
Michel Loeb, j'imagine que vous êtes de ces metteurs en scène qui intégraient la performance dans votre travail de metteur en scène et de théâtre. Quel a été pour vous le travail d'adaptation? Comment s'est passé le travail d'adaptation du matériau dont Marina Abramović parlait, de sa vie et de ses performances, pour en faire un objet scénique d'1h30?
Donc en fait, après tout ce qu'elle a dit, en bref, ça veut dire que si ça foire, ce sera probablement de ma faute, ce qui est tout à fait rassurant. Je dois d'abord dire que je n'ai absolument pas essayé de traduire un langage de performance en théâtre. J'ai absolument pas cette prétention. Et pour arriver à développer ce sujet, il faudrait que j'essaye de définir le théâtre, ce qui n'est absolument pas mon objectif. Je suis assez influencé par le cut-up method de, par exemple, William Burroughs. Alors c'est vraiment une question de juxtaposition des choses. Ça veut dire qu'il y a des éléments de performance où j'ai essayé de respecter la forme, peut-être pas la longueur. Et il y a des éléments totalement biographiques qui vont de l'exceptionnel au banal. Et ça, c'est le genre de matériel avec lequel je me sens relativement confortable.
Mais pour qui connaîtrait très bien le travail de Marina Abramović, que l'on peut voir par ailleurs dans une exposition, en tout cas on peut en voir quelques éléments d'installation vidéo qui a lieu à la chapelle Saint-Charles en ce moment, est-ce qu'on retrouve dans votre proposition Biographie Remix des éléments de ces performances? Je pense notamment à ces images très très fortes où vous aviez passé plusieurs heures avec un serpent autour du cou.
Oui, absolument. On retrouve certaines de ces images, mais elles sont adaptées à un autre format. C'est pas dans une galerie ou dans un musée ou à la télé ou sur un vidéo, mais sur une scène avec un public qui est assis pendant une durée de temps totalement différente. C'est au niveau du temps qu'il y a un changement. Mais je ne peux pas vous révéler trop du spectacle parce que sinon... il n'y aura plus aucun effet de surprise.
Ce spectacle Biographie Remix est-il envisageable sans la présence de Marina Abramović?
Non.
Et comme objet indépendant?
Non.
Donc il ne peut pas être joué par quelqu'un d'autre en présence de quelqu'un d'autre?
À mon avis, non, parce que moi j'ai commencé en faisant de la performance malgré qu'il n'y a aucune interprétation scientifique à ce terme. Moi ce que j'ai compris de la performance c'était on prend un concept, une action et on la pousse à l'extrême. La différence ici c'est qu'il y a une prétention dramaturgique puisqu'on on met des choses ensemble. Ce qui différencie Marina quand elle se qualifie de grand-mère, ce qui est un peu vieillot, mais quand elle se qualifie de grand-mère de la performance, ce qui différencie Marina de tout ce mouvement des années 70, c'est que chez elle, dès le départ, il y avait personnalisation. Ça veut dire, moi, je pense que même à l'époque, ces performances n'étaient pas possibles si ce n'était pas elle qui les interprétait. Et mon travail est surtout axé sur l'individu ou sur le manque d'individualisme. Et je pense que c'est encore valable aujourd'hui et que c'est sa présence et le fait qu'elle est là, même si elle se fait cloner ou que je la clone, et que j'aime bien l'idée de sérialiser les choses. Et moi, je suis beaucoup plus pop que Marina, mais je pense que ce spectacle est impossible sans elle parce que... Vous savez, Marina véhicule parfois une idéologie vaguement mystico-bouddhiste et moi le spiritualisme c'est pas du tout mon truc, le soul pour moi ça s'arrête à James Brown plus ou moins. Mais elle a une ironie d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle arrive à véhiculer cette idéologie dans une contradiction totale. C'est-à-dire, d'un côté, il y a et de l'autre côté, il y a une très, très grande diva. Alors, ça passe plus ou moins de Elizabeth Taylor dans Cléopâtre jusqu'à une forme beaucoup plus ascétique et beaucoup plus clean. Et c'est la contradiction entre les deux qui m'intéresse. Et cette contradiction n'est absolument pas soutenable sans sa présence.
Mais votre collaboration s'est vraiment bien passée ?
Ça n'a pas l'air.
Mais fantastique, parce que nous sommes, we are so different. That's the really the most interesting part, you know, because it's the one thing I love about Michelle is amazing discipline and also the to see things, you know, that every time like want to just do, you know, things that will go into the theater, if you will cut immediately, and he really found the right measure how this thing can be put on the stage but still be performance and not be theater, and that was the most important quality, and the way how is used the text and the video in this piece, it's quite new.
Je dois de nouveau
on laisse interpréter. Bon, en fait, c'est une relation assez fantastique. C'est vrai que nous sommes très très différents, mais c'est justement ce qui donne tout l'intérêt à cette collaboration. Ce que j'aime chez Michel, justement, c'est sa discipline déjà, sa manière de voir les choses. En effet, dès qu'il voit certains éléments qui appartiennent au théâtre, il est capable de les couper, de les éliminer. Il a une façon aussi de trouver la bonne mesure, c'est-à-dire de savoir comment mettre en scène sans que ce soit théâtral. Donc il a une grande qualité de ce point de vue-là. Et de plus, il a utilisé les vidéos et les textes de manière assez impressionnante.
Nouvelle.
Alors, je dois de nouveau la contredire. J'ai absolument aucune prétention d'avoir créé un nouveau langage. Quand j'arrive à une certaine profondeur, c'est toujours de manière purement accidentelle. L'objectif pour moi, c'était de faire un portrait. Le portraitisme, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est un truc très ancien qui a été développé dans plusieurs médias comme la peinture, la sculpture, les documentaires au cinéma, l'écriture, et qui arrive un peu tard au théâtre, mais tout arrive un peu tard au théâtre.
Je vais passer la parole au public s'il y a des questions, mais auparavant, Marina Abramović, je voudrais vous poser une question sur la question de la transmission, parce que quand je posais à Michel Loeb la question à savoir si cette pièce était jouable sans votre présence ou par quelqu'un d'autre, j'avais compris, enfin derrière cette question, il y avait l'idée que cette pièce pouvait être un objet de transmission aux générations futures. Il me semblait que c'était un des éléments de votre choix pour cette forme théâtrale de biographie remix.
But you see, we don't agree what is great. What is very important for me, you know, everything started a long time ago. Once I had a conversation late in the night with Michel, and he said to me, I am all the time used to see my theater pieces dying. You know, means, you know, you play the piece and you play one time, another time, you tour the piece in 3, 4, 5 cities, on the end the piece is finished and nothing is left. Your piece die. And I'm thinking about myself and I say, but I don't want that my performances die. I just never want them to die.
En effet, c'est bien, nous ne sommes pas du tout d'accord, mais c'est une très bonne chose. Tout a commencé il y a bien longtemps déjà. J'avais eu une discussion un soir avec Michel qui me disait qu'il était habitué à voir ses pièces mourir. Elles sont jouées 1, 2, 3 fois dans des villes différentes et puis après c'est fini. Mais moi, je ne veux pas les voir mourir, je refuse.
And this idea of dying, you know, how I think that, you see, when you look performances from the 70s, you just look like these materials from the books and very bad video, what is left over, and always looks very mystifying, and you never really know what really happened there, because documentation is never really right. And we had a very big discussion in Guggenheim in April just about this subject of the documentation preservation of this kind of material, and here is the Babette Mangold, who is one of the pioneers of documentation of the 70s performance art. And we never really have the real material. We don't know what really happened.
Donc en effet, il y a toujours cette idée de, enfin, quand on regarde les performances dans les années 70, on les retrouve dans certains livres, certaines vidéos qui sont un peu mauvaises. On peut dire qu'elles sont quelque part un peu mystifiées. On ne sait jamais réellement ce qui s'est passé lors de ces performances. Nous en avons discuté justement en avril, quand nous étions à Guggenheim. Nous discutions de la préservation justement de cette documentation. Il est assez difficile de dire finalement ce qui s'est réellement passé lors de cette époque.
So, you know, the performance for me only can live if it's life. La performance, on peut seulement être vivre si... être life.
Vivante
si c'est vivant. La performance, seulement être vivant si c'est vivant. That means have to be performed. That's the essential part of the you know, essence of performance.
L'essence même d'une performance, c'est cela. Pour qu'une performance puisse vivre, il faut qu'elle soit réalisée.
So you see, I have to just go back to just tell you my future project, because it's really related to the biography in some way, is that I decided to actually re-perform the performance art, some certain performances from the performance time of the 70s, and re-perform them today, in a, you know, just from the different performance artists, not just my work. And I'm going to do this next November in Guggenheim Museum. I will perform 7 pieces of different artists which I will give a different interpretation.
En effet, je vais vous exposer quels sont mes futurs projets. Et j'ai décidé de reprendre certaines performances qui avaient été exécutées dans les années 70, venant de différents performeurs. Et je vais faire ça donc en novembre à Guggenheim, et je vais présenter cette pièce différente, artistes différents. Et j'apporterai ma propre interprétation, évidemment, à ces performances.
Comme l'histoire de la performance.
No, yeah, exactement. But is what is the important? You know, if you take the piece of music, or if you take the piece from the literature, you have to pay the rights, and you have to absolutely honor the author of this piece. In performance situation, this is not happening. Everybody is stealing from us, from the fashion, from the MTV, even the theater. So it's very important how actually we can protect as a performance artist our heritage.
Puisque je voudrais aussi insister sur certaines choses, en ce qui concerne la musique ou la littérature, il faut payer des droits d'auteur. On honore quelque part l'artiste. Mais en ce qui concerne la performance, ce n'est absolument pas le cas. On vole en permanence nos œuvres, si je puis dire, que ce soit dans le monde de la mode, à la télévision ou au théâtre. Donc ce qui serait vraiment très important, c'est de pouvoir, on va dire, préserver, sauvegarder un peu notre...
So
my droits de nos performances.
My proposition is ask the artist the permission to permit you to perform his piece, understand his work, show the original material, pay the artist the fee, and then be free to perform his work.
Donc ce que je propose, c'est de discuter avec l'artiste en question, discuter de son œuvre et de le payer pour cette œuvre aussi exactement.
And that's the if you can reperform the Bach after 100 years of the death of Bach and make techno Bach, but you still pay the rights to the Bach. This is the same situation.
Mais par exemple, si on réutilise les partitions de Bach et qu'on est capable aujourd'hui de faire de la techno Bach, bon, on serait peut-être plus capable de faire un peu la même chose.
So in this biography remix now, I asked my students who've been students with and study performance with me a few years ago to actually propose to Michel to work with them and actually reperform my pieces in this theater piece. What is really important, so is a kind of first example. Of that decision.
Par exemple, nous regardons dans Biographie Remix, en effet, je travaille avec d'anciens étudiants avec qui on avait travaillé il y a 3 ans. Ils ont travaillé avec Michel, ils ont reperformé, si je puis dire, toute cette œuvre. Et là, quelque part, dans Biographie Remix, c'est un premier exemple, justement, de cette protection ou sauvegarde de la performance.
So,
des droits.
One day, I'm not there, the piece still exists without me. That's the point.
L'idée, justement, l'essentiel est là, c'est que le jour où je ne serai plus là, la performance continuera, l'œuvre sera toujours là.
Merci Marina Abramovic. Y a-t-il des questions parmi le public ?
You know, for the public, it's the best to limit them on 3 questions, then they always ask.
En effet, il vaut mieux. Vous pouvez toujours poser des questions. Ben.
Non.
J'ai le temps.
Yeah.
Faute de questions, Michel Loeb veut rajouter quelque chose, allez-y.
Bon, d'abord, je dois dire que j'adore Marina, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses qu'elle exprime. Mais je dois dire qu'au qu'au niveau de l'interprétation, Marina, quand j'ai dit le spiritualisme, c'est pas mon truc du tout, ça ne veut pas dire, je veux bien l'hypnotisme ou la transe. Marina est capable de rentrer dans des états second, qui est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça veut dire la transe ou même les hallucinations, je veux bien, ça n'a rien à voir avec le spiritualisme, donc je ne suis pas d'accord avec elle du tout à ce niveau-là. Aussi le fait que c'est vrai qu'on vole énormément de la performance, moi je trouve que c'est tout à fait ok, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Et le point assez important, c'est-à-dire le fait qu'elle veut retransmettre et léguer quelque chose, c'est-à-dire elle a parlé de son problème avec la mort qui explique probablement partiellement son inclinaison bouddhiste. Le fait de travailler avec ses étudiants, moi ce qui m'attire avec ça, c'est que quand on dit étudiant, ça veut aussi dire non professionnel, ce qui implique une certaine maladresse qui est vraiment récupérable et qui est une partie intégrale du truc, c'est-à-dire ils ne sont pas censés être des acteurs professionnels qui ont répété le texte 20 fois et qui savent exactement comment le dire. J'essaye de profiter de, j'emploie le mot maladresse, mais c'est absolument pas péjoratif, il y a une forme de réalité là-dedans, de réalisme d'interprétation qui m'intéresse.
Merci Michel Loeb. Une dernière question, Marina Abramovic. Il y a donc ce spectacle du Raffi Remix du 11 au 14 à la salle Benoît XII. Il y a aussi donc la présentation d'installations en vidéo à la chapelle Saint-Charles, grâce notamment à Serge Le Borgne, qui est le commissaire d'exposition de cette exposition. Y a-t-il un mode d'emploi entre les deux? Qu'est-ce que vous conseillez, d'aller voir les vidéos avant d'aller voir le spectacle ou inversement?
Doesn't matter. I think it can be either way. But what there I presenting, especially the piece Video Portrait Gallery, is the way I present 14 videotapes in time. You see just my head performing from, you know, 30 years. Kind of period of the 30 years, so you see evolution of the performance and the different things is what you can actually see them later on biography. But I actually prefer to see first biography and then video installation. Make more sense.
En fait, c'est égal. Vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre. Dans cette galerie de portraits, vous allez voir donc. 14 pièces, vous allez voir ma tête qui va faire donc cette performance, et ça sera sur ces 40 années de travail. Donc vous allez voir
30.
Merci. Merci. Et vous allez voir donc l'évolution de cette performance. Et vous retrouverez certains éléments aussi dans le Biographie Remix, c'est vrai. Mais je vous conseillerais peut-être finalement de commencer par Biographie Remix et d'aller voir l'installation après.
Et ça tombe bien parce que la pièce joue 4 jours quand l'exposition dure jusqu'à la fin du festival. Merci beaucoup Marina Abramovic, merci Michel Loeb, donc Biographie Remix, salle Benoît XII du 11 au 14.
Mais il n'y a pas aucune réponse du public.
Une question. Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. On ne vous entend pas.
Oui, ah voilà. Marina nous dit que donc elle a des étudiants et elle leur enseigne évidemment sa performance, c'est-à-dire pour faire perdurer cette performance dans le temps, de façon à ce qu'elle ne meure pas. Mais dans un autre, donc ça c'est un courant, mais dans ce courant d'enseignement, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'étudiant qui va performer votre performance, mais qui lui-même voudra se performer et à ce moment-là donner une multitude de Marina.
Non, okay. Mais ça, il faut que can you answer, Michel, please?
Elle est en train de se cloner. Non, j'espère pas. Je crois qu'en fait, elle. Moi, j'ai aucune prétention pédagogique, alors c'est difficile de répondre. Mais je crois qu'elle essaye de leur donner les instruments to better themselves, pour pouvoir s'employer eux-mêmes. Enfin, je crois qu'à partir de certains éléments du travail de Marina, il y a moyen de les récupérer, de les employer avec leur propre personnalité, s'ils ont de la chance.
Mais j'ajoutais seulement une chose en français maintenant. Pour jouer Bach, il faut savoir jouer Bach. Autrement, on ne peut pas le jouer. Pour faire la performance, c'est pas une chose que chaque personne peut faire performance. Il faut savoir faire la performance. Et ça, c'est très important, apprenez. Et ça, j'ai essayé de, comment dire, de communiquer à mes étudiants comment faire les performances, comment être là, comment avoir la présence, comment avoir cette énergie forte, comment vous pouvez transmettre cette énergie forte. Et quand vous êtes là, devant le public, si vous avez cette force, vous pouvez faire la pièce.
Y a-t-il d'autres questions?
On n'est pas là. J'avais demandé à Marina si on n'est pas né avec ça, mais bon.
Ça, c'est très intéressant. Quand je vais à l'audition pour mes étudiants, pour les performances, je demande pour faire deux ou trois pièces courtes avant de moi. Et quelquefois, la pièce est complètement stupide, l'idée est complètement imbécile, mais il y a quelque chose dans l'énergie de cette personne. Quelquefois, c'est très important qu'on voit comment les gens sont devant vous, juste au début. Et vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose, il n'y a pas. C'est une chose qu'on ne peut pas prendre. C'est une chose que tu as ou tu n'as pas. C'est une chose génétique.
Moi, je veux... Il y a eu les trois questions ou pas?
Non.
Bon. Bon, alors, je prends la troisième.
Il n'y a pas de quota de questions.
Ah si, elle a dit trois, plus. Basta.
Bon.
Oui, mais c'était une performance, j'ai compris. Oui. Non. Elle admet toutes les contradictions puisqu'elle elle admet votre présence. Donc c'est intéressant. Donc de tout ce qu'elle a dit, il me semble quand même que, notamment sa dernière parole en français, que qu'on le veuille ou non, qu'elle le veuille ou non, c'est une actrice. Bon, puisqu'elle demande à ceux à qui elle enseigne une présence, une énergie face à un public. Bon, alors je voulais lui demander la différence entre jouer sa propre vie ou jouer un texte. De toute façon, le point commun, c'est de faire passer quelque chose. Donc, d'une certaine façon, vous êtes une actrice, pas comme les autres, mais vous êtes une actrice quand même, sinon vous ne pourriez pas parvenir à toucher un public.
I don't know this answer. I have no idea. I don't see the difference. I don't act.
Or she acts all the time.
Je ne sais pas. Je ne vois
il
pas.
Il faut prendre le contradiction. Answer is contradiction.
C'est vous, Michel Loeb, qui l'a disiez diva tout à l'heure.
Ah oui, mais ça, elle le revendique. Ça, j'aime bien ça. Elle revendique. Elle adore Callas. Elle fait plusieurs références à Bach, ce qui me surprend un peu, mais elle aime l'opéra. Elle est très confortable. Elle est très confortable dans ses contradictions. Et là, j'essaie pas de m'en sortir en disant que moi, je suis un type clair qui sait exactement ce qu'il fait aussi, mais moi, je revendique le côté dysfonctionnel de la chose.
Hein. I think I would like to finish this conference with a joke, performance joke. It's always the best to laugh on the end. So this is maybe the answer, what is the difference between the theater and performance. So the joke is this one. How many performance artists you need to fix the bulb on the ceiling?
Très bien. Alors j'aimerais finir cette conférence avec une blague en fait de performer, ce qui répondra peut-être à votre question, monsieur. Alors pour pouvoir fixer une ampoule qui est au plafond, combien avons-nous besoin de performeurs?
The answer is, I don't know. I was there only 6 hours.
La réponse est la suivante. Je ne sais pas, je n'étais là que pendant 6 heures.
Merci beaucoup. Sur cette tribune, mais vous allez patienter encore un peu parce que je vais demander à Wim van de Keubus de venir nous rejoindre pour parler de sa création à la carrière Boulbon pure.
Merci, Bonjour.
Donc bonjour Wim van de Kebus, pardon. Pure à la carrière Boulbon jusqu'au 22 juillet. C'est un lieu du festival qui suppose une question immédiate sur justement le lieu, puisque c'est un lieu très fort du festival, à peu près équivalent à celui de la Cour d'honneur. Et du coup, la question du lieu, à mon avis, déborde un petit peu sur la question de l'œuvre, à savoir comment vous avez appréhendé cet espace de la carrière Boulbon, qui peut être tour à tour et qui a été utilisé d'ailleurs comme ça, à la fois comme une arène, comme une place de village ou éventuellement comme un cercle magique. Est-ce que vous avez opté pour une vision spécifique de ce lieu ?
Oui. D'abord, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que la Cour d'honneur, pour moi. C'est personnel, le goût est personnel. Mais je pense que c'est un lieu qui me va beaucoup mieux que le côté historique de la Cour d'honneur. Parce que c'est en fait, c'est juste un trou dans une montagne. Et elle est très brute. Et elle est restée brute aussi, que même il y a des pierres qui tombent, tu ne peux pas toucher ou ça peut tomber. Et il y a quelque chose donc pas abouti et tu peux pas changer. On sent aussi qu'il y a une sorte de force de nature que en fait c'est vraiment comme un cratère parce qu'il faut rentrer. Et ce que j'aime bien aussi pour ce travail, c'est que c'est en dehors de la ville, que c'est il faut vraiment prendre ces 10 km d'ici, puis il faut marcher 2 km et on arrive vraiment à quelque chose et on se prépare pour le spectacle. Bien sûr, le théâtre peut être aussi comme ça. Je ne peux pas contrôler comment les gens ou le public viennent voir le spectacle. Comment moi j'ai travaillé là, c'est je suis venu il y a un an, l'année passée, je n'ai pas vu un spectacle de People del Bono, mais j'ai vu l'après-midi parce qu'on jouait à Marseille. Le soir, je devais retourner. Et puis, Quand j'ai vu tous ces murs et tout, ça m'a... j'ai dit, les murs doivent vivre. Je suis retourné en hiver et j'ai commencé à projeter des films sur les murs. Donc c'est ça qu'on fait aussi. Et j'ai écrit toute une histoire, en fait, qui c'est une reconstruction de mémoire. Et cette mémoire, c'est dans les murs. Bien sûr, le spectacle, c'est un spectacle... je ne peux pas me permettre de faire un spectacle qui joue que dans les carrières, c'est très difficile. Donc c'est un spectacle qui tourne, qui doit jouer aussi dans les théâtres.
Mais est-ce que vous l'avez adapté pour la carrière ?
Oui, absolument. On a adapté pas tellement le spectacle en soi, parce que c'est conçu que ça peut fonctionner dans des lieux différents. Et mes spectacles, c'est toujours un peu... On vient dans le théâtre avec une ouverture de 12 mètres ou une ouverture de 20 mètres, il faut adapter le point de vue des spectateurs aussi. Mais ce qui est très différent, c'est qu'on n'a pas que le fond noir, ce n'est pas une boîte noire. Et en fait, c'est pour ça aussi que je pense que souvent, j'aime de travailler avec les autres médias, comme le film ou quelque chose, pour ouvrir cette boîte noire et pour projeter presque une autre imagination sur scène, parce que...
Alors malheureusement, je n'ai pas pu voir le spectacle, mais j'en ai vu les 45 premières minutes avec justement ce que vous racontiez, c'est-à-dire un film projeté sur la pierre de la carrière Boulbon. Et il y a un effet de matière assez extraordinaire qui, je trouve, fonctionne. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs ou comment ça fonctionnera ailleurs, mais qui fonctionne de manière assez extraordinaire là, puisque le film raconte grosso modo, enfin vous allez me contredire, le massacre des innocents. Enfin, moi, je l'ai lu de cette façon-là, avec une référence biblique assez forte. Et l'effet de la pierre, l'effet de la projection des images sur la pierre donne quelque chose d'extraordinairement archaïque et mythologique à l'histoire.
Pour moi, en fait, bien sûr, je suis un conteur d'histoire. Et je trouve que j'essaye toujours, intuitivement, d'utiliser la scène comme un média qui communique. Donc, et bien sûr, comme vous avez parlé il y a une demi-heure de toutes ces choses, comment on peut communiquer quelque chose. De les actes de performance art des 60, c'est différent que maintenant, on commence à récupérer des choses l'un à l'autre. Moi, j'ai commencé avec de nouveau faire, de nouveau pas, mais dans ma danse, de faire quelque chose de très physique, intuitif, très direct. Maintenant, j'ai commencé avec les ingrédients du massacre des innocents, mais c'est aussi, il faut voir, c'est une histoire, on dit le massacre des innocents, c'est pas le massacre des innocents, c'est les ingrédients de ça qui se passe aussi maintenant. On ouvre le journal, ça passe aussi, tous les ingrédients de peur, de nouveau, qui peut prendre le pouvoir, ou c'est pas, on peut transformer vers quelque chose d'aujourd'hui. Aussi, quand Jésus est né, Hérode, il voulait éliminer tous les enfants, les bébés, en fait. C'est qu'on peut pas comprendre pourquoi on peut éliminer des enfants qui sont très innocents. C'est ça, c'est juste cette idée. Mais en fait, ça s'est passé il y a 2000 ans. On sait pas si c'est vraiment passé, si c'est 12 enfants ou 2000 ou c'est pas. Ça, c'est, mais les ingrédients de là. Et après, j'ai toujours trouvé très intéressant ce truc. Et aussi, cette émotion de mère, comment ça peut être que quelqu'un vient et on vient arracher ton enfant pour une raison d'un autre enfant qui peut être né, et peut-être c'est celui-là qui est déjà parti, en fait, en Égypte. Donc après, c'est comme ça. Maintenant, en fait, quand Krishna est né, il y a 5000 ans, c'est presque la même histoire. C'est exactement les mêmes ingrédients. Donc les hindous, ils ont toujours pointé aux catholiques et dit, vous avez volé notre histoire. En fait, cette histoire, je l'ai volée. Et j'ai fait une fiction de ça. J'ai écrit un film où chaque acteur qui est sur scène meurt dans le film. Donc chaque 3 minutes, il meurt quelqu'un. Juste pour montrer en fait que la scène, c'est un espace de mémoire pour moi. Et le film et la scène, donc si c'est théâtre, danse ou avec musique ou tout ça, ça c'est une théorie qu'on peut, c'est analytique. Mais moi, je travaille plus intuitif. J'ai dit, pour moi, c'est un espace de mémoire. Il faut toujours se baser sur la mémoire intuitive ou rationnelle, ça dépend du caractère, pour faire quelque chose sur scène. On ne peut pas monter et juste être frais tout le temps. Même si c'est frais, et je force mes personnes de faire quelque chose qui est réel, qu'ils vont pas le choix, ils peuvent pas marquer. Si on danse de temps en temps, il y a une sorte de réalité qui me plaît. Mais que c'est clair, en fait, que c'est une reconstruction. Et donc, il y a deux histoires parallèles, c'est-à-dire le film qui est filmé avec 150 figurants, 30 bébés, 50 mères, 60 jeunes, et donc c'est une communauté. Dans cette communauté se passent les ingrédients de cette histoire, et en fait, sur scène, c'est une sorte d'au-delà fictif, où on travaille avec des actes de mémoire sur cette histoire. Et c'est très bizarre parce qu'on a joué la première, on a joué à Singapour, puis en Corée, et en Corée, en Asie, on ne connaît pas si bien cette histoire de Hérode, parce que avec nous, dès qu'on est sur les bancs de l'école, on commence avec... on te met toutes les histoires catholiques, en fait, dans nous. Donc on se souvient de ça. Hérode, c'est le... Et, bon, comment se passe cette histoire. Mais en fait, eux, ils ne connaissent pas très bien, et c'était très intéressant parce que le spectacle s'appelle Pur pour deux raisons, ou pour beaucoup plus de raisons, mais d'abord pour cette pureté d'un enfant qui est né, qui est innocent, qui est juste né, qui n'a pas encore d'histoire en fait. Et puis la deuxième côté du titre, le côté dangereux du mot pur, la purification.
L'épuration.
Donc, oui. La peur, en fait, de l'autre, de quelque chose de différent qui est maintenant. Il faut, dans cet esprit de temps qui est très présent aussi, je trouve, que les gens veulent se protéger, aussi en Belgique ou en Autriche, on a joué en Autriche, où les gens disent « nous d'abord » et pas de mélange de... Dans un monde, en fait, où c'est très difficile de trouver quelque chose de pur, où tout se mélange. Donc pour moi, c'est j'ai utilisé quelque chose d'historique pour parler aussi de ce temps ici.
Dans la création d'un spectacle comme celui-là, Wim van de Keubus, est-ce qu'il y a une image première? Parce que vous parliez de cette mythologie du massacre des innocents que l'on connaît tous et qu'on apprend sur les bancs de l'école dès notre plus jeune âge. Mais comment cette histoire revient en vous pour faire spectacle, pour faire danse ou théâtre?
Pour moi, la première chose, c'est pas cette histoire. J'ai changé l'histoire parce qu'on connaît trop l'histoire pour le filmer. C'est, j'avais écrit le script et puis j'ai donné à la personne pour. On essayait de trouver de l'argent pour le filmer. C'était un temps très court. Elle dit oui, ça va être un film de costume comme ça. Il pensait. Je dis non, pas du tout. En fait, c'est il n'y a pas des rochers ou l'histoire biblique comme ça avec les. Donc c'est très différent.
Vous n'êtes pas Cécile B2000.
Non, il faut. Peut-être c'est science-fiction dans le passé. Donc pour moi, j'aime bien de travailler timeless. Donc on ne peut pas vraiment mettre un temps dessus. Mais dans l'autre côté, comment ça vient pour moi? J'ai vu une peinture quand j'avais 14 ans, juste de Massacre des Innocents. C'était juste des soldats qui voulaient prendre le bébé et les mères qui le défendent. Pour moi, c'est peut-être beaucoup plus cette énergie de cette maman qui défend tout, qui va mourir pour défendre son enfant et qui ne peut pas le donner, et l'autre qui est peut-être un père. Et toute cette complexité aussi, comment en fait on peut éviter le rumeur qu'on va tuer les enfants, qu'est-ce que ça donne dans les gens, comment ils veulent cacher leurs enfants, comment ils vont les habiller en filles, parce que peut-être les filles on ne va pas tuer, comment tout cet accidentel derrière une histoire. Je pense dans un drame, c'est toujours, on focus sur le drame. Ça s'est passé, mais tout ce que ça provoque, c'est pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Si tu dois faire un film d'un accident, l'accident, c'est et c'est fini. C'est comme mourir. Mais ce que ça provoque, si on est parti, dans les gens qui restent ou quelque chose, ça c'est beaucoup plus intéressant. Ça c'est la passion humaine qui veut expliquer, qui souffre, qui cherche un sens, qui a des émotions. Et à côté, il y a la force de la nature qui juste dit, qui n'a pas de passion, qui est indifférent. Et cette indifférence cette passion humaine, c'est ça qui m'intéresse en fait. Dans une histoire comme ça, bien sûr, peut-être cette histoire était là quand j'avais 14 ans, et maintenant ça revient, après on continue, je commence à écrire, c'est petit à petit, ça dépend quelles personnes sont devant vous. Nous on avait mis sur l'internet, Ultima Vez cherche des familles avec des jeunes enfants pour filmer le massacre des innocents. Et c'était énormément de réactions. Pendant des mois et des mois, il y a des gens qui ont envoyé des photos de leur bébé et tout. Comme on avait un tas comme ça. Et puis j'ai dit, bon, on va les voir tous. Et tous sont venus. Et après, j'ai expliqué. On m'a dit, bon, on va filmer avec tous. On ne va pas éliminer des gens parce que le bébé est plus beau que l'autre. Non. Donc c'était un tournage. À la fin, on n'avait pas d'argent. Et j'ai dit, on va filmer. Et j'ai dit, bon, il faut quelque chose de mémoire. Et quelle est la mémoire pour nous, les gens qui vivent maintenant? C'est pas le vidéo digital, c'est clair, parce que c'est instantané, c'est tout, on peut filmer et tout. Pour moi, c'était le Super 8. Et donc, j'ai été chercher mes caméras Super 8, les nettoyer un peu, et puis on a filmé avec trois caméras Super 8 dans le format carré, avec un grain comme ça, et on projette ça sur les rochers que... Parce que mémoire, c'est comme ça, c'est pas chronologique, c'est quelque chose, c'est court, et on a fait un montage assez vite aussi, pour ça que c'est beaucoup plus une impression. Mais ce que j'aime bien, c'est ça peut donner un passé de ces gens sur scène. Il y a trop une tendance aussi il faut toujours un derrière, un autre espace, parce que des danseurs ou des joueurs qui, entre 20 et 30, tu les mets sur scène et dire on va faire un spectacle basé sur votre vie, ça peut être très vite fini. Donc il faut une fantaisie qui est plus lourd.
Alors vous parlez de cette violence de ces enfants arrachés au sein de leur mère, de ce tableau que vous avez vu à l'âge de 14 ans. Et de la mémoire de ce tableau-là, alors ma mémoire est très récente puisque les quelques minutes de votre spectacle que j'ai vu c'était hier soir, mais l'une des images très très fortes, un des premiers mots, ce sont les tout premiers qui sont un cri d'amour au père. Et j'ai l'impression que dans votre pièce pure, la place du père, la figure du père est très très présente.
Oui, c'est aussi... c'était pas le début du spectacle, hier on a fait la partie du milieu, et c'est plus focusé sur ça. Mais bien sûr, on ne fait pas une... on ne joue pas cette histoire, on prend des éléments. Et pour moi, l'effet de... Comment dire, de parents, de papa ou maman, c'est, pour un bébé, c'est quelque chose, il ne voit pas ça très différent. Il voit ça attaché à cette figure. Mais c'est comme moi, je garde avec mon fils, et j'ai un autre enfant, quand il y avait 2 ans, j'ai un autre enfant avec moi, qu'une mère donne un enfant à toi et dit que tu peux le garder 2 heures. Tu joues avec, tu le lances une fois dans l'air, et après 2 minutes, il dit « papa, à toi ». C'était toujours comme ça, je ne suis pas ton papa. Mais c'est comme ça, pour un enfant, c'est une figure, c'est une abstraction. Mais un enfant qui n'a jamais eu des parents, parce qu'il est mort. Il est mort avant qu'il a conçu cette idée. Et pour nous, c'était très bizarre, parce qu'il y a des enfants sur scène, mais ils ont entre 20 et 30 ans, parce que je ne peux pas voyager avec des enfants et les mettre sur scène et de les faire jouer quelque chose. C'est génial, j'adore travailler avec eux pour cinéma et pour faire tout ça. J'ai des acteurs entre 6 et 12 que j'ai fait un spectacle avec, et ils ont joué dans le film, et ils jouent vraiment. Et c'était très violent aussi, c'est la première partie de ça, mais avec des enfants nouveau-nés, c'est différent. Donc pour nous, c'était... On est mort, et dans le au-delà, on peut avoir un autre corps, un autre état, et on peut continuer à bouger, continuer à danser. Et j'aime bien cette artificialité, et ça serait génial qu'il y ait un au-delà où ça continue, et tu peux re-rencontrer la personne qui t'a tué, et sans passion, on peut en discuter. Parce que, en tout cas, on sait que c'est pas si grave parce qu'on continue. Et c'est cette fantaisie, en fait, que sur scène, c'est possible. Et c'est pour ça aussi, l'idée de père ou mère, c'est très important. Mais c'est génial de les interchanger. Et c'est pas grave que, un enfant sur scène dit papa à sa maman. C'est juste l'idée. Ça fait le switch, en fait, que c'est comme, un enfant peut jouer mon père sur scène. C'est aucun problème, je peux jouer son enfant.
Donc c'est un rêve de réconciliation, ce spectacle?
Oui, peut-être. Mais pour moi, c'est une reconstruction. Et reconstruire une histoire, c'est beaucoup plus intéressant que montrer une histoire ou raconter une histoire. Reconstruire, c'est... Est-ce que ça peut être comme ça, ou chercher des liens? Et c'est pour ça aussi, pour les spectateurs, bien sûr, pour nous, tout est clair. Chaque personnage est filmé, mais la façon, la forme qu'on a choisie, c'est beaucoup de travail pour le spectateur aussi.
Merci, Vim. Y a-t-il des questions dans le public pour cette création donc de Pur, enfin, qui a été créée déjà à Séoul, c'est ça?
Singapour.
Des questions? Non, monsieur?
On a tout focalisé sur le film, dans la mesure où vous qui interrogez, mais surtout vu le film, on voit moins. Est-ce que il y a deux parties bien séparées, un film de 45 minutes et puis on ne voit plus jamais d'image, ou bien comment se construit la chorégraphie par rapport à ce film? Est-ce que c'est un bloc film et puis un bloc chorégraphie, ou bien il y a un mélange des deux? Je n'ai pas très bien compris.
Oui, c'est un mélange. C'est, pour moi, ce n'est pas un bloc séparé, c'est tout s'intègre. En fait, c'est comme une musique, et la musique est au-dessus de quelque chose. Tu peux dire, oui, mais la matière de la musique est... Pour moi, c'est tout comme ça, mais on ne peut pas juste projeter quelque chose. Chaque chose, il faut faire attention, parce que le film est un média très... Ça demande beaucoup, ça plaît. Donc si, pendant des années, j'ai travaillé avec du cinéma, et pour moi, je faisais du cinéma avec l'argent de scénographie, parce que je n'avais pas l'argent pour faire du cinéma. Donc Et c'était des courts-métrages, mais j'arrêtais le spectacle presque. Je suspends le spectacle pour pouvoir voir le film. Et j'ai jamais filmé des danseurs sur scène et projeté la même image sur un écran. Parce que l'œil va toujours vers... C'est comme un enfant qui va en TV et il ne te parle plus. On est séduit comme ça. Et ici, j'aime bien que c'est une matière qui s'efface, cette image nette, claire de la télévision ou de qu'on a l'habitude maintenant. Il faut presque chercher un peu. Mais pour moi, jamais je montrerai une chose vue par une caméra. Pour moi, c'est clairement une autre chose. Je raconte toujours une deuxième histoire avec un autre médium. Et comme ça, j'essaye d'intégrer. C'est différent que dans Blush, le spectacle où on a l'écran, on plonge dedans et ça change à l'instant. Ici, c'est différent parce que l'histoire est beaucoup plus importante.
Et la narration chorégraphique n'est pas suspendue pendant que les images sont projetées.
Non, mais il faut. C'est pas suspendu, mais il faut. De temps en temps, c'est beau aussi de faire dans un spectacle de 2 heures, de faire une action qui prend 10 minutes. Donc, qu'on peut, avec l'œil, qu'on peut voir. Ah oui, ils sont occupés avec ça, mais j'ai le temps de faire. De suivre autre chose. Et moi, j'ai l'habitude, je dois faire attention parce que j'ai l'habitude de regarder 5 choses à la fois. Parce que, et je dois faire attention pour le spectateur aussi que. J'ai confiance que c'est possible, mais je dois oublier un peu que je connais ce que je montre. Et ça, c'est le travail pour le public, bien sûr. Sinon, tout le monde doit venir 2-3 fois, peut-être.
Parce que nous ne sommes capables de voir que de 2 ou 3 choses, et encore. Y a-t-il d'autres questions ? Vous êtes endormi ? Non, personne ? Bon. Merci beaucoup, donc, Pure, à la Carrière Boulbon jusqu'au 22 juillet. Joseph Nadge, merci. La renvoyer à un paysage concret et non pas du tout à une abstraction. Donc, à quel type de paysage ce titre et cette pièce renvoient-ils ?
Oui, l'origine de cette pièce, ou je dirais même cette performance, parce que dans la forme, donc j'essaie d'expérimenter donc une nouvelle approche de la pièce. Ça veut dire de trouver une forme ouverte, dans le sens que c'est, la pièce est basée quand même sur l'écoute, sur l'improvisation. Donc le spectacle est quand même structuré. Donc il s'agit d'une improvisation structurée. Le déroulement est fixé et vérifié déjà avec un musicien, donc avec Vladimir Tarasov qui va m'accompagner. Et comme c'est un musicien de jazz, donc j'ai récupéré un peu une sorte d'expérience que j'avais fait au début des années 80 avec l'orchestre d'Alain Silva, l'orchestre de jazz à Paris où j'ai participé pendant une certaine période à des répétitions et à des concerts. Donc j'ai improvisé avec tout un orchestre et déjà cette expérience m'a poursuivi. Donc le souvenir de cette expérience-là et l'envie de refaire d'une manière plus aboutie cette expérience-là. Donc j'ai choisi un musicien issu surtout de la musique improvisée, donc de jazz, avec qui donc on dialogue sur cette matière-là. Donc alors, l'origine de cette pièce est effectivement basée sur une expérience concrète. Ça veut dire le rencontre, la visite d'un paysage réel qui se situe en Voïvodine, dans ma région où je suis né. C'est une région désertique et j'ai choisi quelques mètres carrés d'un endroit. Où je retourne depuis quelques années. Aussi, donc, j'avais l'envie aussi de sortir de studio de répétition. Parce que j'ai aperçu, au bout de, je sais pas, de 25 ans de travail à l'intérieur de 4 murs, toujours sur le plancher, que j'avais besoin, vital, je dirais, viscéral, d'aller dehors, dans la nature, et de vivre déjà cet contact-là et de faire de faire sortir de moi toutes ces sensations que je peux approuver sur place.
Donc ça n'est pas que un paysage de souvenirs, c'est aussi un paysage, je veux dire, terrestre, terrien, enfin un sol.
Tout à fait. Bon, en dehors de contact avec le sol qui est primordial, donc il s'agit d'un petit bout de sol argileux, et où il y a une petite source aussi naturelle qui jaillit de temps en temps, qui mouille complètement, et donc je danse donc d'abord seul dans la nature, donc il y a que donc avec les éléments, le vent, la boule, ou quand ça c'est sec, c'est, alors avec l'argile sec, c'est incroyable comme sensation.
Et là, vous parlez des répétitions, de l'expérimentation ou du spectacle?
Non, je parle de l'expérimentation, des improvisations que je menais dans ces lieux-là. Et que après, évidemment, donc, bon, ça c'est une approche de voir et de revivre dans tous mes états possibles, donc à l'aube, de l'aube jusqu'à le coucher de soleil, donc l'hiver, donc sur la neige aussi. Et aussi d'ouvrir à la fois des sensations à l'intérieur et l'oreille. Dans ce que je disais tout à l'heure, que dans des salles de répétition, ce sont des salles sourdes. Donc, danser dehors, c'est complètement une autre histoire. C'est quelque chose que je comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas fait plus jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, je fais un spectacle à partir de ça. Donc, c'est basé maintenant sur les souvenirs de ces sensations-là.
Mais quel est le sujet du spectacle? Est-ce que c'est ce paysage? Est-ce que le paysage fait un sujet de spectacle? Ou est-ce que c'est plutôt vous dans ce paysage? Vous, sur la terre des origines?
C'est quelque part une recherche de mes mouvements originels, si je peux dire, sans aucune référence, alors ni littéraire ni d'autres.
Ce qui est rare.
C'est de pures sensations que j'essayais de capter, saisir et le développer. Et ça fait donc une forme de rituel personnel en face, donc dans des lieux d'un paysage. Donc c'est un paysage à l'intérieur et en face avec un paysage réel concret que j'essaie donc même dans le spectacle. Donc ça c'est une approche parce que j'ai mené d'autres approches parallèles. Donc j'essaie de dessiner cet espace, je le photographie, je me filme pendant. Donc parallèlement je prépare aussi un film sur cette expérience-là, et aussi ça sortira malheureusement que l'année prochaine, donc avec des extraits de spectacle plus les origines. Donc on me verra faire mes expériences dans le lieu, donc le public pourrait voir après donc concrètement le lieu d'origine de la source même, donc la source concrète de ce spectacle-là. Je faisais déjà et je continue de faire de multitudes de dessins, mais le dessin c'est pas avec aussi avec de créer, de crayons, de tout ça, mais surtout avec mon corps. Ça veut dire surtout avec mes mains. Je trempe mes mains dans des couleurs et j'essaie de retrouver à la fois la vision de ces paysages-là, à la fois mes sensations. Ça veut dire qu'et à partir de mes observations, par exemple l'eau, comment le soleil tape dans l'eau et le vent qu'on s'élève, donc il y a une multitude de rythmes très très fins qui se présentent devant moi. Donc j'essaie de créer des images à partir de là, donc avec tout mon corps. Donc c'est aussi une autre approche de dessin que j'expérimente. Et dans le spectacle, il y a donc je fais pas vraiment de parce que le ton de dessin c'est autre chose que dans le spectacle, mais c'est l'acte même du corps qui va à un moment donné va aller vers le dessin, ce qui est aussi inclus dans le spectacle.
Pourquoi cette expérience-là, cette nécessité, cette urgence peut-être même de revenir aux origines, après un peu plus de 20 ans de danse, est-ce que c'est pour faire le point que d'une certaine manière, comme ça, à mi-âge, à mi-temps de la vie ou d'une vie artistique, on a besoin de se ressourcer, vous parliez beaucoup de sources, ou est-ce qu'il y a un événement plus intime chez vous qui a nécessité, je ne vais pas employer le mot rupture parce que vous ne l'avez pas employé, mais cela ressemblerait comme ça à un très léger changement de parcours en tout cas.
Nous, c'est lié tout simplement à un besoin à l'intérieur très profond de sortir, donc de sortir de la salle et d'avoir de nouvelles expériences. Voilà.
Mais vous ne savez pas dire comment ce besoin s'est imposé.
C'était pas prémédité, c'était pas une idée conceptuelle, et donc c'était vraiment un besoin très profond, vital, pour sentir que je peux progresser, pour avancer.
Parce que vous aviez la sensation de ne plus pouvoir progresser?
Non, on cherche toujours de nouvelles endroits, de nouvelles contraintes aussi, pour enrichir ou pour épurer nos propres propos.
Mais en même temps, le fait de sortir de la salle s'accompagne d'un besoin de revenir au lieu d'origine, au lieu de naissance. Est-ce que c'est pour vous une façon de repenser, essayer de regarder, reconsidérer, comprendre ce qu'a été ce besoin d'être danseur ou d'être le danseur que vous êtes?
Peut-être aussi, et surtout c'est donc je repense et je réconcilie un petit peu la rupture, ce que j'ai vécu, que je commençais comme dessinateur et après donc je suis allé vers la danse et maintenant j'essaie de retrouver une sorte d'osmose, de symbiose entre ces deux pratiques là.
Mais vous réconciliez ou vous reconstruisez pour
reprendre les deux, quelque part. Et donc le titre en plus, Last Landscape, Dernier Paysage, je ne sais pas comment j'ai trouvé ça. Donc j'ai décidé déjà pour le titre il y a 2 ans que ça sera ça. Et il y a 1 mois, je suis retourné dans cet endroit-là et je croise un berger. Et il me dit, cet été-là, donc le mois d'août, cette surface, donc l'argile était vendue pour la Hongrie, donc une société a acheté, parce que déjà chez nous, on utilise, mais d'une manière sauvage, pour les articulations, on a découvert que c'est très très bien. Et donc probablement ils vont arriver avec 2 camions et ils vont creuser, donc ils vont lever, donc ils vont bousiller cet espace. Donc heureusement que je finis la pièce parce que donc ils vont m'enlever cet endroit-là.
Donc c'est une terre perdue.
Ça sera malheureusement.
Est-ce que ça entraîne chez vous un quelconque sentiment de nostalgie?
Oui, on peut dire, mais c'est le mot nostalgie, j'aime pas.
Vous employeriez quel mot?
Je sais pas.
Joseph Nadj, vous expliquiez donc que cette pièce, la Soundscape, est un solo, mais en fait vous êtes 2 sur scène, puisqu'il y a le percussionniste et compositeur russe Vladimir Tarasov. Alors c'est pas une première rencontre, vous aviez, je crois, travaillé ensemble pour Le Repli du Temps en 98 ou 99. Pourquoi avoir fait appel à lui spécifiquement?
Comme je disais, j'avais envie de travailler à vif en direct avec un musicien. Donc c'est,
vous étiez donc les 2 en situation d'improvisation.
Oui. Et j'avais fait le choix que donc j'hésitais à un moment donné entre le piano, donc je connais un formidable pianiste que j'inviterai l'année prochaine au festival, ou les percussions. Bon, j'ai choisi les percussions, donc Vladimir, parce que l'énergie que j'ai besoin de cet accompagnement, c'est les percussions qui a pu me donner. En plus, je le cherchais. Je sais, cette personne, je l'écoute par ses disques depuis 25 ans. Et on se connaît depuis 5 ans. Je suis allé vers lui, donc je lui ai proposé. Et donc je suis trop content qu'il ait accepté cette collaboration.
Alors ce spectacle, Joseph Nadj, Last Landscape, se joue à minuit, c'est une heure un peu particulière au festival. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Est-ce que c'est pour des questions d'emploi du temps? Ou est-ce que justement il y a une énergie particulière de cet instant de minuit?
Non, c'est le festival qui a choisi, ce qui est lié aussi au lieu. Parce qu'on ne peut pas occulter tout, donc il faut attendre la nuit, l'intérieur de la chapelle. Mais à vrai dire, cette heure me convient complètement. J'ai l'habitude de travailler la nuit, c'est là où je suis, disons, le plus éveillé, et aussi à savoir qu'il y a un relatif silence. Il devrait y avoir un relatif silence à l'extérieur. C'est la journée qui commence. À partir de minuit, même symboliquement, j'aime beaucoup ces moments-là.
Est-ce que c'était une indication pour l'édition de l'année prochaine où vous serez artiste associé? Tout ne commencera pas à minuit.
Non. Par contre, oui, l'année prochaine. Bon. Mais bon, c'est trop tôt de parler de ça. Mais en tout cas, forcément, je vais faire une performance dans une autre chapelle et pendant la journée avec la lumière de la journée.
Vous travaillez déjà à cette édition 2006, oui, bien sûr.
Oui, mais bon, ça, c'est pas le moment d'en parler. Bien sûr que oui, je réfléchis beaucoup et surtout à mes créations, à mes nouvelles pièces que je présenterai.
Merci Joseph Nadj. Y a-t-il des questions sur cette performance donc de Joseph Nadj qui s'appelle La Last Landscape? Je regarde à droite, il n'y a pas de main qui se lève. Au centre, pas davantage. Et à gauche, c'est silence dans les rangs. Donc j'en conclus que vous êtes ravi et comblé et suffisamment curieux pour aller voir Last Landscape. Ah, que répondre? Il revient l'année prochaine, oui.
Paris, mois d'avril, donc je peux être que désolé, mais c'est...
La rançon du succès. Merci beaucoup Joseph Nadj. Donc Last Landscape, c'est à la chapelle du lycée Saint-Joseph à minuit du 11 au 24. Merci beaucoup. Alors nous allons poursuivre cette conférence avec Jean Lambert-Wild et la coopérative 326, mais pour cela il y a quelques modifications, on ne va pas appeler ça un plateau mais d'estrade, puisque Jean Lambert-Wild arrive en force avec son équipe, sa coopérative et les savantes qui participent à son spectacle Mu. Donc je vais vous demander 30 secondes que l'on enlève les tables et que tout le monde puisse arriver sur cette estrade.
Mais depuis des années, les spectacles qui ont lieu dans cette coopérative sont le fruit de ces personnes. C'est une confusion de plus en plus grande de croire que le rapport d'un seul crée une communauté. Nous tenons à, pour nous, c'est très important, cette communauté, c'est des gens qui travaillent depuis, pour certains, plus de 12 ans ensemble, et de croire que les spectacles que nous vous présentons, par exemple au Festival d'Avignon, qui sont Mu, Première Mélopée, ou les autres Calenture, Aigris Omnia, Le Mur, sont le fruit de mon travail, est une erreur manifeste. Ce sont le fruit de toutes ces personnes qui sont là, qui travaillent ensemble. Donc on associe souvent mon nom à ce travail, puisque je suis ensuite le porte-parole, et il nous semblait important de dire la vérité, puisque nous sommes avec les Awe Uptabi, les hommes de vérité, et la vérité, c'est qu'effectivement, c'est ce fruit d'un travail en communauté. J'en profite aussi pour remercier... Les gens qui nous défendent depuis longtemps, des producteurs, des mécènes, et qui font confiance à cette utopie qui nous ont permis de la construire. Ils nous suivent depuis des années, c'est ce qui nous permet d'être là aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la chance de nous associer à une autre communauté, qui est la communauté de Chavante des Teneritipa.
Avant de parler de la communauté de Chavante, est-ce que vous diriez, Jean Lambert-Wild, que la coopérative 326 est une communauté démocratique, absolument démocratique, par essence?
Alors,
question de vocabulaire, communauté, coopérative.
Alors, c'est une coopérative, ça c'est certain. Le principe de la démocratie... je ne sais pas. Nous avons nos règles propres qui sont pour la plupart inspirées par les codes de la marine marchande et les codes de la flibuste. Nous inventons notre propre utopie. Est-ce que c'est démocratique? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi? Oui, ils s'en tapent, en fait.
Un ou deux exemples sur les règles qui régissent donc la coopérative. Quand vous parlez des règles de la marine marchande, ça fait référence à quoi?
Alors, par exemple, nous ne montons pas des productions, nous montons des chasses-parties, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de partir à l'assaut, de certains désirs. Nous travaillons en matelotage, c'est-à-dire il faut toujours être deux. Donc, par exemple, moi, je suis en matelotage avec Jean-Luc, Franck est en matelotage avec qui il veut, mais la plupart du temps avec Thierry, etc. Et c'est des règles, il y en a beaucoup.
Alors, vous parliez donc de la rencontre de deux communautés, la coopérative 326 et la communauté Tchavante. Mu Première Mélopée, c'est un spectacle qui donc est le fruit de cette rencontre-là. Comment elle s'est faite, cette rencontre ?
Je crois que ça, c'est à Paolo de répondre. Donc, Paolo Suplete Pla Tchavante va répondre. On va avoir des petits problèmes de traduction. Il faut qu'on traduise en portugais. Il va falloir qu'on traduise aussi en Tchavante, puisque tous ne parlent pas portugais.
Alors, il faut quand même peut-être préciser qui sont les Tchavantes.
Alors,
le mot indien est exclu, j'ai cru comprendre.
Je pense que le mot indien, c'est pas qu'il est exclu, il n'est pas à propos. Vous n'aimeriez pas qu'il vous traite. Alors, le blanc, voilà. Hein. Donc, ce sont des Tchavantes. Vous êtes un Français, ce sont des Tchavantes. C'est aussi simple que ça. Donc, les Tchavantes vivent au Mato Grosso. Ils font partie de la communauté des Teneritipa, dans la réserve du Agua das Mortes. Et actuellement, il y a 12 000 Tchavantes répartis au Mato Grosso, dans à peu près 86 villages. Voilà. Ce sont des guerriers et des chasseurs.
Donc, qui a été à la rencontre de qui ?
Les rêves sont à la rencontre. Sont en la rencontre des hommes, je pense. Mais ça, c'est à Palo de répondre.
Tá. Eu vou responder, tá? Que foi o seguinte, o encontro do Jean com nossos amigos, que é o Acre Itaí, que sempre trabalhou com a gente. Nós temos 15 anos de trabalho que ela está fazendo com a gente. E o encontro foi através com o Ricardo Fernandes, e depois indicou da nossa aldeia, porque eles são tá mais sendo contato com a gente. E esse encontro aconteceu, foi assim. E aí foi indicado lá a nossa aldeia, e ele foi lá e nós ficamos felizes de a gente ser encontrado, mas a gente não sabia que ele estava levando um projeto dele, e a gente foi uma surpresa de ele propor para a gente, e nós aceitamos isso, a gente poder colaborar com ele, mostrar um pouco a nossa cultura e mostrar um pouco que a gente temos um conhecimento. Era isso que a gente... Foi assim que surgiu o nosso amigo, e agora nós todos, meu povo, adora ele, gosta muito dele, é como a família da gente. Foi assim que aconteceu o nosso encontro.
Bien, la rencontre, Jean nous est arrivé, c'est Christine qui est là, qui travaille avec les Tchavantes depuis 15 ans. Et Ricardo Fernandes qui ont fait les contacts. Et Jean est arrivé alors dans notre village. Nous étions très heureux de le connaître. Mais nous ne savions pas qu'il avait un petit projet qui est devenu très grand. Et là, il nous a proposé son projet. Et nous trouvons que c'était très bien. Nous étions très heureux de pouvoir travailler avec lui et de pouvoir montrer notre culture et nos traditions. Et donc nous l'avons accepté et nous l'aimons beaucoup, c'est comme quelqu'un de notre famille. Il s'appelle Waipo.
Donc c'est vous qui avez dégainé le premier, si j'ose dire, c'est vous qui avez été rencontrer les Tchavantes. Pourquoi ? Comment vous les avez connus avant de les rencontrer ?
Une partie de ce qui me définit sont mes rêves, et j'avais rêvé que je devais... partir là-bas, et j'en avais parlé avec mes camarades et qui ont considéré que c'était peut-être important de suivre ce chemin. Et après, quand on est allé la première fois avec Jean-Luc Terminarias, donc qui est le compositeur, et Christophe Farion, qui est le régisseur son, nous sommes allés une première fois en 2003 au village sans aucun projet, en fait. Et c'est les rêves que nous avons fait là-bas. Et les discussions que nous avons eues avec Paolo, mais aussi Cérébourant, qui est l'homme le plus ancien du village, qui nous ont amenés à venir avec cette proposition de faire un wara sonore et poétique. Le wara étant, je vais l'expliquer, le wara c'est un rituel très important qui a lieu tous les matins et tous les soirs. Le wara c'est aussi le centre, l'espace central du village. Les hommes se retrouvent et discutent avec un art oratoire assez impressionnant. Ils échangent leurs rêves, mais aussi ils règlent tous les problèmes de leur communauté pour que le lendemain, eh bien, ils puissent avancer. Voilà, donc c'est comme, on pourrait faire une comparaison avec ce que pourrait être notre agora, en sachant qu'ils ont su conserver un espace poétique et politique extrêmement fort. Et tout, dans le principe du wara, tout peut se dire, à condition, et tous les conflits peuvent se résoudre avec un rituel de prise de parole particulier, bien évidemment.
Donc vous diriez que votre spectacle Mu Première Mélopée serait, j'imagine la réponse, hein, mais une reconstitution ethnographique ? Bon, ça vaut une colère, pas un silence.
Non. D'abord, un des principes de la coopérative 326, c'est que la colère n'est jamais admise.
Une chance.
C'est une chance parce que pour moi, parce que je, étant en fait à la base d'un esprit assez colérique, mes camarades m'ont beaucoup tapé comme on tape un poule pour m'adoucir. Non, cette question, un rituel n'a pas d'intérêt. En dehors de son contexte, ce qui nous semble important, c'est de nous réunir et que deux communautés puissent échanger des traditions et au travers d'une forme poétique qu'elles auront choisie ensemble, pouvoir offrir un moment de rêve et de poésie à vous qui viendrez nous voir, aussi simplement que ça. Donc ça n'est pas un rituel, c'est sûrement pas un spectacle folklorique. Je pense que c'est ni le lieu ni l'envie qui nous unit.
Il y a donc cette rencontre, il y a un texte que vous avez écrit, Mu, Première Mélopée, qui est d'ailleurs publié au Solitaire Intempestif, Jean Lambertville. Ce texte est composé des rêves que vous avez formés là-bas.
Alors, le texte se décompose comme suit. Une partie du texte, c'est les rêves de Waipo Junior. Donc Waipo Junior c'est moi, puisque j'avais un guide dans mes rêves qui est Waipo, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Et il y a aussi une autre partie qui sont les mythes de la communauté de Chavande des Teneritipa. Il y a trois mythes. Et il y a le discours de Cérébourant, qui est l'homme le plus âgé du village, qui a connu le temps où il qui a existé avant le contact avec la civilisation. Il y a eu un gros travail de traduction et d'adaptation poétique pour conserver la puissance de l'oralité de la langue chavante, qui a été effectué avec Paolo et Christina, et avec Luciano, bien évidemment, qui est allé avec nous au village. Il faut savoir qu'on est parti trois fois au village, et que les principes de la coopérative, justement, c'est que chacun puisse vivre de la même façon la même aventure, donc à chaque fois nous étions deux de la coopérative. Donc il y a eu d'abord moi, Jean-Luc et Christophe. Après j'ai été accompagné par Thierry Varenne et Jean-Daniel Corbet. La dernière fois c'était par Renaud Lagier, et la prochaine fois ça sera par Catherine Lefeuvre et Franck Besson. Et comme nous devrons retourner plusieurs fois, puisqu'à chaque fois que nous reprendrons le spectacle, nous changerons les interprètes tchavantes pour qu'il y ait eux aussi un équilibre dans leur communauté, nous sommes obligés d'y retourner pour organiser les répétitions et pour continuer nos échanges poétiques.
Quelle est leur présence dans le spectacle ? Les considérez-vous comme des acteurs, comme des musiciens ? De quelle façon ?
Écoutez, pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de réunir des hommes et des femmes, et c'est de réunir des caractères. Je ne sais pas si c'est très important qu'ils soient acteurs, musiciens. Ce qui est important, c'est qu'ils aient envie d'échanger quelque chose. Ce genre de catégorie ne me concerne pas.
Euh, Bénédicte de Billy, je suis une des comédiennes du spectacle. Il ne s'agit pas trop de reconstituer quoi que ce soit parce qu'on ne sait pas ce dont il s'agit. En tout cas pour les interprètes. On n'est pas là pour reproduire quoi que ce soit qu'on n'a jamais vu. On est là pour essayer qu'il se passe quelque chose avec des gens dont on ne connaît pas, dont on ne connaît rien, avec qui il va falloir essayer de, qu'il se passe quelque chose tout simplement. C'est pas essayer de reproduire, de acteur pas acteur. À la fois nous on est acteur parce que dès qu'on est sur une scène on est un acteur. Mais il s'agit que quand on regarde nos partenaires, il s'agit qu'il existe quelque chose.
Dans quelle durée c'est préparer le spectacle physiquement, hein, j'entends, je parle plus des voyages, là, je parle de la forme que l'on va pouvoir voir à Somade. Dans quel temps et leur présence était-elle là continuellement?
Alors, là, il a fallu 3 ans pour préparer tout ça. Mais au niveau, on va dire, au stricto sensus du temps des répétitions, nous avons eu, avec les coopérateurs, de longues mois de préparation pour tout ce qui était de l'espace de narration qu'on devait construire. Il y a eu de nombreuses discussions avec le Festival d'Avignon pour trouver un lieu qui puisse être proche du rêve, d'un rêve qu'avait fait Paolo et qu'il m'avait raconté. Et puis après, on a répété 3 semaines avec les interprètes qui sont Jacqueline Imbert, Marc Le Glatin, Laure Thierry et Bénédicte de Billy. Puis on a répété aussi avec les musiciens, Jean-François Oliver et Stéphane Pélicien. Et nos amis nous ont rejoints il y a 15 jours, en sachant que il est important pour eux qu'ils ne restent pas plus d'un mois, parce que passer un mois, c'est un temps un peu trop long et qui pourrait désorganiser la vie du village. Donc nous sommes très attentifs à, effectivement, que les choses se passent au mieux. Donc leur présence est courte, mais comme nous avions préparé les choses au village, par de nombreuses discussions et par aussi une étape qui avait eu lieu à Sao Paulo et Rio, et à Rio au Sesc, nous avions déjà une idée de la forme que nous voulions inventer.
Je voudrais poser une question à Paolo. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir ici en Avignon, à participer à cette aventure que vous proposez, Jean-Lambert Wild? Il parlait de rêve, il parlait d'échange. Quel désir d'échange vous aviez?
Voilà. Foi assim, nosso pensamento é querer mostrar um pouco, né, o nosso pensamento e ver também como é que é de outro lugar, né, para ver como é que é esse que o povo vive daqui, né? Então, foi uma coisa para a gente, foi uma coisa nova para a gente, né? Que a gente, que não é que a gente faz lá, né? Mas da cultura, do como o branco faz, é diferente. Então a gente estamos querendo, nós estamos aprendendo isso, né? Então é isso.
Notre idée a été de pouvoir montrer notre pensée. Et aussi de connaître la vie, comment vous vivez ici, montrer notre manière de voir le monde, notre pensée, notre idée, et connaître quelque chose de nouveau pour nous, c'est votre manière de vivre, la culture des Blancs, et aussi d'apprendre comment vous vivez ici, apprendre avec vous.
Ah, oui, je poursuis, pardon. Quelles sont vos premières observations, vos premières découvertes ou vos premiers étonnements? À quoi ressemble Avignon et ce festival pour vous?
Olha, coisa que eu vi é uma
uma cultura diferente, né? Uma cultura que respeita, né? São muito respeitosas, né? E é uma coisa, muita coisa diferente, né? Que eu vi, mas está guardado só para mim poder contar lá na minha aldeia, que eu vi aqui como é que é a vida do povo daqui.
J'ai vu que c'est une culture très différente, évidemment. J'ai vu qu'il y a beaucoup de respect. C'est la vision que j'ai eue. Il y a eu beaucoup de respect. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai observé beaucoup de choses. Et j'ai tout émagasiné pour pouvoir raconter aux gens de mon village quand je serai rentré.
Est-ce que la notion de spectacle existe dans votre communauté?
Vocês têm essa noção de espetáculo? Vocês fazem esse tipo de coisa na comunidade?
Olha, não, não. Porque a gente não tem um costume de fazer um espetáculo assim, mas temos ritual, mas é diferente do que daqui.
Não, nós não temos essa noção de espetáculo, não fazemos de espetáculo. O que nós fazemos são des rituels. C'est différent, c'est des rituels.
Mot que vous réfutez, Jean Lamberville, concernant votre spectacle. Rituel.
J'ai pas compris, excusez-moi.
Le mot de rituel est un mot que vous réfutez concernant Mu, première mélopée.
De toute façon, oui, puisque nous ne faisons pas un rituel chavante. Donc, ça serait mentir que de dire que nous allons faire un rituel chavante, ce ne serait pas vrai. Je pense que dans un jeu de regard, ce que nous essayons de créer un espace de communion, où des gens ont pris la décision de se parler et d'autres vont peut-être prendre la décision de venir les écouter.
Qu'est-ce qui a été modifié dans votre manière de travailler avec ce spectacle, avec cette rencontre? Est-ce que c'était dans la logique de votre travail ou il y a vraiment eu une modification très très profonde?
Vous voyez, c'est étonnant, j'ai beau l'avoir dit, hein, c'est incroyable, vous revenez toujours sur l'idée de mon travail. Alors, il est une chose qui est intime et qui a été modifiée, mais cela me concerne moi. Je pense que pour la coopérative 326, c'est un moment de rassemblement et de discussion qui, dans un principe d'éducation, nous amène plus loin. Voilà. Et que cela fait que notre travail et les écoutes que nous avons les uns des autres est plus grande. Par exemple, pour avoir observé, beaucoup d'entre nous, pour avoir observé le Wahara, c'est une forme de discussion que nous adoptons. Il nous arrive maintenant de dire, bien, on va faire un Wahara. Voilà. Et c'est très bien. Après, justement, notre positionnement poétique ne s'identifie pas au travers du mouvement qui m'anime, mais au travers du mouvement qui nous anime tous, ce qui fait que nos projets ont une identité que je ne peux pas résoudre en vous parlant. Je ne sais pas vous savez, je ne peux pas vous dire ce que va être la prochaine chose que nous ferons. Je peux vous dire ce qu'elle sera, je ne peux pas vous dire quelle forme elle prendra, puisqu'elle tiendra lieu des discussions que nous aurons ensemble.
Mais l'idée de première mélopée suppose une deuxième, etc., ou c'est un côté feuilletonesque qui vous échappe?
Alors, dans la coopérative, il est permis, effectivement, que chacun peut inscrire. L'idée de coopérative, ce n'est pas un collectif. Donc, la différence, elle est sensible, c'est que chacun peut inscrire son principe poétique et le mettre dans un rapport de concordance avec les autres principes poétiques des autres individus qui se sont réunis. Il y a une chose qui m'appartient, qui est que j'ai un projet d'écriture qui comprend trois mélopées, trois épopées, trois confessions, un dithyrambe, deux exclusions et 326 calentures. Actuellement, j'ai mené une épopée, deux confessions, c'est la première mélopée. Je suis à 25 calentures, les deux exclusions sont faites mais sont tenues secrètes. Et quand j'arriverai au bout de ce cycle, moi, en ce qui me concerne, j'arrêterai. Il faut bien comprendre que ce projet qui m'est propre, en tout cas à un endroit et qui est mis en partage, n'est pas le seul projet de la coopérative. Des projets comme le Spaghetti's Club ou Don't Mess with Texas ou Orgia ne tiennent pas lieu de ce mouvement-là.
Merci. Y a-t-il des questions parmi le public?
clair.
Apparemment, non. Alors, j'ai, je dois avouer, pas tout à fait une vision très claire de ce que l'on va pouvoir voir à SOMAD, mais je pense que c'est logique, puisque c'est un spectacle et il faudra y venir. Du coup, je ne sais pas, en revanche, parce que ça, j'ai compris très très clairement, je ne sais pas qui remercier. Tout le monde.
Écoutez, Jean-Luc dit très souvent une chose que j'aime beaucoup. Il dit, si on savait ce qu'on devait faire, si on sait ce qu'on va faire, pourquoi le faire? Donc jusqu'au dernier jour, je crois que nous ne pouvons pas savoir ce qu'on va faire. C'est vous qui pourrez nous dire ce que nous avons fait. Nous tâchons de le faire au mieux que nous pouvons. Après, qui on peut remercier? Je pense que c'est assez simple qui on peut remercier. On peut remercier, effectivement, je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est toujours un point important, tous ces gens qui, ces producteurs, ces subventionneurs, ces mécènes qui font confiance à ce genre d'utopie, c'est-à-dire une utopie, cet horizon sans limite que nous tâchons de regarder et de construire. C'est eux qui nous ont permis de nous rencontrer. Si Vincent Baudrier et Hortense Archambault n'avaient pas fait confiance à ce rêve, nous ne serions pas là. Si Henri Taquet, le directeur du Granit, où la coopérative est associée depuis 8 ans, ne faisait pas confiance au délire de nos avancées, nous n'en serions pas là. Et aucune coopérative, aucune communauté ne peut exister sans soutien. C'est pas possible.
En remerciement et en dernière question, quelle définition vous donnez au mot délire ?
Alors, il y a des gens qui sont atteints d'une dépression nerveuse. Eh bien, je pense que le délire est une dépression joyeuse. Voilà.
Merci Jean-Lambert Wilde. C'est moi qui fais sport.